À toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Aux Sources. Aujourd'hui, je suis en présence de Benoît Coquart, qui est sociologue à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des milieux ruraux et des classes populaires auxquelles vous avez consacré votre thèse. Vous venez de publier aux éditions de La Découverte un ouvrage qui s'intitule « Ce qui reste », sous titre « Faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Donc ce travail, il est issu d'une dizaine d'années à peu près d'immersion, un petit peu moins, en tout cas d'un long travail quotidien dans la région du Grand Est, auprès du coup d'une population issue essentiellement des classes populaires, hein, des ouvriers, des ouvrières, des chômeurs aussi, des chômeuses, dans des zones qui sont quand même en cours de dépeuplement, qui sont aussi en partie désindustrialisées, voilà, où les grandes usines ont disparu, les bars aussi, du coup, les associations de quartier, enfin tout ça crée un paysage un petit peu sinistré. C'est la zone que vous décrivez, mais on va voir qu'il y a aussi un envers du décor. J'utilise le mot l'envers parce que le livre paraît dans une collection qui s'appelle L'envers des faits aussi. Donc c'est un petit clin d'œil à ça. C'est un ouvrage qui permet, je pense, et on y reviendra, de déconstruire un certain nombre de clichés, de caricatures qui peuvent circuler couramment dans le débat public sur la France périphérique, les petits blancs, des choses comme ça. Peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet, je voudrais simplement signaler une espèce de... Alors, on ne dit pas homophonie, je ne sais pas comment on dit, homographie, enfin, en tout cas, voilà, une similarité dans les couvertures de votre livre et de celle, peut-être que Raphaël mettra les illustrations pour qu'on les voit mieux, de ce roman qui est paru l'an dernier, qui a obtenu le prix Goncourt, c'est celui de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Je voudrais lire un extrait de la quatrième de couverture et vous laisser réagir parce qu'il me semble, donc, Nicolas Mathieu, lui, donc, sous une forme qui n'est pas issue des sciences sociales mais de la littérature, décrit des espaces qui ressemblent à certains égards à ceux au sein desquels vous avez enquêté. Lui, il me semble que c'est plutôt tiré autour de Hayange et des Hauts Fourneaux. Et je voudrais voilà, lire la dernière phrase de la quatrième de couverture et vous laisser réagir pour savoir si c'est de cette France-là aussi dont il est question dans votre ouvrage. Donc je lis, c'est la France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Interville, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à 20 ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, entre la décence et la rage. Est-ce que c'est dans cette France que vous avez enquêté ?
Je ne sais pas si ça réussit et si ça suffit à résumer ce sur quoi j'ai travaillé. En tout cas, je pense que c'est une expression un petit peu de la manière dont on la décrit habituellement. Là, il me semble que c'est la... Vous venez de lire la quatrième de couve, donc effectivement les mots écrits par les éditeurs. Et oui, c'est je pense que c'est d'une certaine manière, en tout cas, ce que les lecteurs viennent chercher quand on leur vend notamment un roman qui parle d'une France, comme vous l'avez dit, qui a tous les apparats des territoires sinistrés, d'une France démodée, quasiment has-been, là, en fait, c'est ça qu'on veut nous dire. C'est-à-dire que le Picon, Johnny, c'est que non seulement c'est des caractéristiques de la France populaire, des classes populaires, mais en plus d'un monde qui disparaît, qui n'aurait pas d'avenir. Et bon, ça, évidemment, on voit tout de suite que c'est plus complexe, ne serait-ce que bon, pour ceux qui y habitent, c'est assez évident, qu'il y a un avenir, qu'ils y restent, qu'ils veulent y rester. Et je pense qu'avec la méthode que j'ai essayé de mettre en place, qui est celle de l'enquête ethnographique, le but, c'est d'aller voir ce qui se passe ici. C'est comme dirait Goffman, au lieu de s'en tenir au simple constat du « ici c'est mort »,« tout est loin, il n'y a plus rien, tout a fermé », on essaye d'aller voir comment les habitants continuent de faire groupe, comment il y a des alliances, des solidarités, des conflits aussi qui se retissent, comme partout ailleurs. Et du coup, il m'a semblé intéressant un petit peu de m'opposer dans le livre aux représentations dominantes en tout cas, ou on peut appeler ça des théories, qui ne voient dans ces territoires-là qu'un repli sur soi, un individualisme généralisé. Mais par ailleurs, sans juger de la qualité de la quatrième de couverture, le roman de Nicolas Mathieu, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il mettait, il faisait en fait de personnages romanesques à partir d'existences voilà, de jeunes de milieux populaires qui viennent de petites villes, de territoires désindustrialisés. C'est pas du tout les personnages de romans qu'on est habitué à voir. Et surtout, c'est décrit avec une crédibilité empirique, même pour un sociologue, qui est surprenante. Et voilà, il y a beaucoup de petits détails, de petites anecdotes qui ne pouvaient être racontées que par quelqu'un qui l'avait vécu. Et en cela, moi, bon, évidemment, je serais incapable d'écrire un roman de cette envergure, mais il me semble en tout cas que il y a quand même quelque chose qui a trait à la proximité avec ces milieux-là pour pouvoir au moins s'y intéresser et essayer de les décrire avec une certaine bienveillance. Moi, en tout cas, c'est la réponse que j'ai essayé d'apporter, quoi.
Et dans votre livre, hein, enfin, bon, c'est pas un roman, mais en l'occurrence, il y a des personnages. Vous décrivez sur parfois plusieurs pages, hein, un jeune, une jeune, un couple aussi parfois pour incarner peut-être aussi aller derrière, aller au-delà des chiffres en fait, donner un peu de chair.
Ouais, mais ça c'était important. Mais de toute façon, ça vient naturellement en fait quand on fait une enquête. C'est un peu les préceptes d'un ethnographe qui s'appelait Marcel Maget. Il disait dans son manuel, il faut essayer, tant que faire se peut, de se mêler à une situation sociale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être l'observateur dans sa tour d'ivoire lointain qui manipule les stats, les archives et qui décrit ces populations comme ça d'en haut, bah on essaye d'avoir des activités partagées avec eux, de s'intégrer aux sociabilités comme je l'ai fait, de les suivre sur plusieurs années. Donc en fait, pour arriver à décrire des phénomènes globaux, macrostructurels, qu'on a pointés comme étant importants, centraux, on arrive à se saisir des petites histoires individuelles qui ont l'air microscopiques, mais qui en fait sont révélatrices de bouleversements beaucoup, beaucoup plus grands et qui les dépassent, mais à la fois c'est que par elles qu'on arrive à les saisir. Et du coup, les problématiques, l'ensemble, un peu le faisceau de problématiques que je tire dans mon livre, il tient directement aux trajectoires de ces personnes-là, et même plus qu'aux trajectoires, aux manières dont elles se fréquentent, dont elles vivent ensemble. Et j'ai essayé notamment la construction des chapitres, c'est beaucoup de mots de la pratique, de petites expressions qui, par exemple, n'auraient pas de sens ou pourraient même être tournées en dérision si on la réduisait à la France du Picombière, vous voyez. Mais là, on se rend compte que la manière dont on nomme la réalité qu'on a face à soi, ça exprime en fait une situation qui est beaucoup plus intéressante à décortiquer en sociologue, quoi.
Alors, juste un mot, justement, sur votre position à vous de sociologue, parce que vous le dites dans le livre, vous en venez du Grand Est. Bon, vous ne dites pas d'où exactement, pour préserver aussi l'anonymat des enquêtés, mais vous en venez, mais vous l'avez quitté, cette région, pour aller étudier à Paris, j'imagine. Enfin, vous ne le dites pas, mais en tout cas, on le devine entre lignes.
En partie.
En partie. Et là, vous y revenez. Comment est-ce que vous êtes perçu par vos enquêtés? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des différences objectives, ne serait-ce qu'en termes de niveau de diplôme. Mais comment est-ce que, pour vous aussi, vous vivez ce retour, disons, enfin, j'allais dire à la case départ, mais dans des habits aussi complètement différents, peut-être de ceux que vous aviez. Hein.
C'est la grande question, là. On va passer plus d'une heure. Hein. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a une partie des personnes sur lesquelles je me suis appuyé, notamment quand j'ai commencé mes recherches en 2011. C'est des amis avec qui j'ai partagé tout un pan de ma trajectoire parce qu'on est partis ensemble étudier, qu'on est partis en ville. Et beaucoup de ces personnes-là, c'est des femmes parce qu'en fait, partir faire des études, quand on vient d'un milieu populaire et d'un milieu populaire rural, ça concerne surtout les jeunes femmes qui, voilà, comme on le sait en sociologie, elles réussissent mieux à l'école que les garçons, mais aussi elles sont davantage prises dans les mécanismes de la massification scolaire. Donc quand on passe le bac, on ne se doute pas forcément que ça implique de partir à 2 heures de chez soi dans la première université, voire 1h30, 2 heures de chez soi, mais on y va. Et pour se rassurer, ça c'est quelque chose que montre bien une sociologue qui s'appelle Sophie Orange, qui a travaillé sur les BTS, et qui montre comment en fait ces personnes-là, de milieux populaires ruraux, ces jeunes, ils partent ensemble et ils vont dans les mêmes destinations. Et on refait groupe dans la ville où on arrive, parce qu'on perd l'attache avec le groupe de départ. Donc moi, finalement, je gardais les contacts surtout avec ces jeunes femmes étudiantes qui avaient des parcours à peu près similaires aux miens. Et j'ai commencé à les interroger, elles, sur qu'est-ce que c'était que d'être partie, parce que la question de départ n'était pas très aboutie. Je voulais simplement expliquer comment ça se fait que ces campagnes-là se vidaient. Donc j'avais ciblé les cantons qui s'étaient le plus dépeuplés, où environ un tiers d'une génération part. Et voilà, je voulais d'abord raconter, parce qu'il me semblait qu'il y avait un espèce d'élément, un présupposé, qui disait, voilà, ceux qui sont partis ne veulent plus rentrer, ils partent,
C'est
limite,
ça
il y
la
aura
question.
une forme de mépris, en fait, dans leur parcours.
Ils partent ou elles partent définitivement ou elles partent pour les études et
En
elles
fait, c'est ça qui est
reviennent?
intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de tentatives de retour. Le problème, c'est d'arriver à s'installer, de trouver un emploi qui correspond à ses qualifications, parce qu'après, on postule sur un marché du travail rural qui est essentiellement pourvu en emploi manuel, peu qualifié, et dans des secteurs considérés comme, je mets les guillemets, comme masculins. Pour ces femmes qui ont obtenu rapidement une licence, voire plus, parce qu'en fait, elles ont continué sans trop savoir où ça allait les mener, arriver à postuler sur les emplois locaux, c'est une forme de déclassement. Donc, vis-à-vis de ces enquêtés-là, il y avait une proximité évidente et en fait, on partageait ces mêmes questionnements. Ensuite, il y a d'autres, il y a ceux qui restent.
Et qui sont au cœur quand
Voilà.
même
Et
du...
parmi ceux qui restent, donc moi je pense que on présente, c'est intéressant ce que vous supposez là, c'est-à-dire le sociologue aurait coupé avec son milieu parce qu'on part étudier. Mais la sociologie, ça permet en fait de questionner son rapport à son milieu d'origine sans arrêt. Et je pense qu'en grande partie pour ça, moi j'ai toujours gardé mes liens. Donc j'ai toujours retourné là-bas, j'ai toujours des activités, etc. Enfin bref. Ce qui fait que pour certains, j'étais pas vraiment parti. Et ça, c'est notamment les amis sur lesquels je m'appuie au départ, notamment pour qu'ils me présentent d'autres personnes, et quand je retourne m'installer là-bas pour de bon, pour faire mon enquête. Et là, je rencontre après des gens que je peux connaître de nom, mais après des gens que je ne connaissais pas du tout avant, et auxquels je me présente vraiment comme le sociologue. Et là, c'est là où ça a été dur. Je pense surtout, surtout pour moi de voir ce que représente la distance sociale, comment elle s'incarne. Et la manière dont, en fait, le monde de l'école, on m'appelait le prof, ou l'étudiant, mais plus souvent le prof, l'étudiant, c'était les plus âgés, et les jeunes m'appelaient le prof, ceux qui étaient un peu plus jeunes que moi, et ils avaient en fait, c'est là où je me suis rendu compte de la véritable défiance et de ce que l'expérience scolaire, pour eux, avait représenté comme ennui profond, mais aussi, en fait, pour eux, c'était la seule scène sociale où ils s'étaient retrouvés autant dévalorisés. C'est-à-dire que, voilà, alors que... Et ça, c'était typique notamment des jeunes hommes, ceux qui avaient une bonne réputation, qui étaient bien vus, qui, même s'ils avaient peu de diplômes, on considère localement, parce qu'ils ont beaucoup d'amis autour d'eux, qu'ils ont déjà une maison, qu'ils ont retapé eux-mêmes ou fait construire avec leurs potes, ils ont une voiture, une compagne. Voilà, ils ont tout l'attribut de l'homme accompli, tous les attributs de l'homme accompli. Et en fait, le seul regard un peu qu'ils peuvent ressentir méprisant qu'on peut leur renvoyer, c'est celui des classements scolaires, des certifications qui sont issues d'un milieu social qui n'est pas le leur, et qui en plus ont surtout valeur dans les espaces urbains que eux aussi mettent à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté, chez ces jeunes-là, j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas ce côté, on se sent les oubliés. Non, moi, on me racontait, ici, c'est la Corse sans la mer, on est bien ici, et c'était Paris jamais de la vie, Paris qui était perçu comme une arnaque, parce que j'incarnais cette figure-là. Donc l'échange, le rapport d'enquête, déjà, il en disait beaucoup. Et c'est arrivé très vite, mais avant que je le comprenne, avant que je l'écrive dans le livre, que je le relie à des éléments objectifs d'analyse, etc., ça m'a pris des années. Mais c'est vrai que finalement, le questionnement de la manière dont les enquêtés vous perçoivent et les petits mots qui peuvent servir à se présenter, à justifier, d'accepter ou non de vous parler, en fait, une fois qu'on arrive à les décrypter, ça nous en dit long.
Alors, tout à l'heure, on commençait en commentant la quatrième de couverture, qui est effectivement, hein, je le précise, la citation que j'ai lue au début, c'est pas un extrait du roman, c'est pas la plume de Nicolas Mathieu, c'est son éditeur qui, voilà, qui fait une quatrième de couverture comme il se doit. Et donc, là, on peut voir poindre, en tout cas, il y a tout un discours, on va dire, un peu misérabiliste sur à la fois les beaufs racistes, les petits blancs qui seraient isolés et craintifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre type de discours public qui circule quand même beaucoup, qui serait là presque à l'inverse, un peu populiste, qui serait plutôt peut-être de droite aussi, et qui aurait tendance à encenser ces campagnes en déclin en les présentant comme, voilà, ça c'est le vrai peuple, c'est la France des oubliés, les perdants de la mondialisation. Est-ce qu'il y a ça aussi?
Oui, tout à fait. C'est les deux pendant, en fait, d'un même ethnocentrisme, finalement. Parce que dans les deux cas, qu'on l'imagine comme voilà, ces bons Français qu'on opposerait, évidemment, aux populations issues de l'immigration, en omettant que dans ces territoires ruraux industriels, il y a une forte part quand même de populations issues de l'immigration, même si voilà, c'est compliqué depuis qu'il n'y a plus l'industrie pour elles de rester.
De quelle immigration
Il y a plusieurs immigrations, parce qu'on est sur des industries assez anciennes, qui sont développées surtout lors de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire quand on a relocalisé les petites et moyennes industries dans les milieux ruraux, donc on en a enlevé un peu des pourtours de Paris, notamment ce que raconte Noiriel dans ses livres sur les ouvriers français, c'était aussi pour gérer toute cette masse d'ouvriers qui devenaient révolutionnaires. On les a renvoyés en milieu rural, dans des petites industries où on a appliqué du management paternaliste. On ne disait pas comme ça à l'époque, mais c'était le paternalisme. Et avec un fort attachement déjà à l'entreprise dans laquelle on travaillait, etc. Donc on a fait venir, sur les territoires où j'ai enquêté, des Belges, des Français aussi d'autres régions, de régions plus pauvres, parce que le Grand Est était très développé, fin du 19e siècle. C'est là, par exemple, dans les bourgs où j'enquête, il y a certains cantons, certains bourgs, qui avaient plus d'habitants au début du 20e siècle que maintenant, parce que c'était une industrie qui était bien portante. Donc ensuite, il y a eu les immigrations qu'on connaît d'Européens, qui sont pas racisés aujourd'hui, les Italiens, des Espagnols, des Portugais après. Et maintenant, enfin, ceux qu'on identifie comme ceux issus de l'immigration là-bas, c'est les descendants d'immigrés maghrébins, qui sont quand même... j'en parle dans le livre parce qu'il m'a semblé que c'était une espèce d'omission permanente. Et il y a un personnage maghrébin aussi dans le roman de Nicolas Mathieu, et je pense que pour lui, ça faisait sens aussi, ça allait de soi d'en parler, parce que, notamment pour les jeunes, à l'adolescence et encore après, moi j'étudie plutôt des vingtenaires, trentenaires, donc plus âgés que dans le roman, c'est ceux issus de l'immigration et ceux qui ne le sont pas, ou en tout cas qui ne le revendiquent pas parce que c'est une immigration européenne et on ne se définit pas comme ça, ils font partie des mêmes groupes d'amis, ou en tout cas ils sont en interaction les uns les autres, ils travaillent dans les mêmes boîtes. Et ça me paraissait, ces oppositions-là entre le vrai peuple de la France oubliée qu'on appelle, que d'aucuns appellent aujourd'hui les petits blancs, comme s'ils seraient tous blancs. D'ailleurs, c'est un terme, à mon avis, qui ne leur plairait pas du tout, parce que c'est une espèce de posture de crainte et de repli qui ne correspond pas du tout à l'assurance qu'ils ont dans leur style de vie.
Ce n'est pas une expression qu'on retrouve parce qu'elle sature, les éditos, les colonnes des journaux.
Mais en fait, tous les discours dont on est en train de parler depuis le début, là, ça passe largement au-dessus des têtes en milieu rural, et tant mieux, à la limite.
En fait, ça ne les affecte même pas parce qu'ils ne sont pas confrontés à ces discours.
Il faut à un moment donné que ça prenne un peu pied dans un minimum de réalité pour que ça heurte les consciences. Et là, le fait de parler comme ça, je sais pas, par exemple, de la théorie de l'insécurité culturelle aussi, à mon avis, pour moi, c'est avant tout aussi des expressions de ce que peuvent ressentir certaines franges des classes moyennes, y compris peut-être des classes moyennes supérieures qui vivent dans les villes, qui sont plutôt conservatrices. Et donc, on convoque un peu un peuple qui serait représentant, finalement, de ces façons de penser-là. Et on a... Ce peuple, finalement, il est facilement assimilable à ces discours-là sans qu'on lui demande son avis, à cause des taux de vote pour le RN, le Rassemblement National, à l'époque, ça s'appelait encore le Front National, qu'on constate dans ces campagnes-là, parce que c'est ça qu'il faut aussi préciser. Vous avez dit, c'est des milieux en déclin démographique. On part massivement. Il y a l'industrie qui a périclité, etc. On est dans le Grand Est. Mais on est surtout aussi sur des terres historiquement très marquées à droite, conservatrices, malgré le fait qu'on soit notamment dans des cantons. Je parle par canton plutôt que par département, parce que en fait, je me retrouve souvent à enquêter à la frontière de plusieurs départements. Et si on regarde même à l'échelle de la France, c'est là que se retrouvent beaucoup les territoires les plus ouvriers, loin des préfectures, etc. Et donc, On se retrouve avec un vote de droite qui était déjà ancré depuis longtemps à cause de
À cause de quoi,
du ben on peut c'est compliqué hein. Mais en tout cas il y a aussi des figures politiques locales qui ont été importantes. Il y a eu une désaffection des partis de gauche, notamment du militantisme de gauche. Donc là il faudrait voir aussi la responsabilité des partis d'opposition dans l'hégémonie de la droite dans ces territoires, et puis de parler quand même de quelques petites poches de gauche, mais qui sont rares. Mais en tout cas, il y a cet impact du paternalisme industriel qui a très tôt misé sur notamment la petite propriété, sur des ouvriers qui étaient à la fois ouvriers et paysans. Donc on travaillait une partie de l'année à l'usine et le reste du temps au champ sur des petites parcelles. Et ensuite, la manière dont s'est formée l'industrie et tout ce qui gravite autour d'économie, c'est beaucoup de petites boîtes. Alors là, je fais un grand saut dans le temps, hein. J'en arrive quasiment à l'époque d'aujourd'hui, donc à poste des industrialisations. Mais même les usines qui perdurent sont des usines de relativement petite taille. Et on a le sentiment, à ce niveau-là de vision du travail, qu'on partage des intérêts communs avec son employeur. On dit on travaille chez un tel ou un tel, on ne raconte pas exactement ce qu'on fait, on ne raconte pas exactement son niveau, est-ce qu'on est plus ou moins exécutant. De toute façon, il va de soi qu'on est ouvrier ou alors on est ouvrier qualifié,
Ce qui compte, c'est
mais on
chez qui on travaille,
identifié
ouais.
et on a un sentiment de devoir aussi cette bonne place, comme on dit, si on est bien payé, relativement bien payé, en comparaison de ce qu'on pourrait être moins, donc le SMIC, etc. On se dit, je suis chez un tel et il paye bien, j'ai une bonne place grâce à lui. Et on considère, notamment parce qu'on a affaire à des secteurs où il y a toujours un peu le spectre du déclin aussi économique, des licenciements, on dit le patron, c'est aussi celui qui se mouille le plus parce qu'on a déjà vu d'autres entreprises couler. On n'est pas dans des industries florissantes où il y a vraiment cette perspective des patrons qui se gaveraient parce qu'on verrait l'argent comme ça couler à flot. Alors même qu'il y a des inégalités importantes, si vous voulez. Mais en tout cas, il y a cette idée que voilà, on est tous dans le même bateau. Et ce qui ne veut pas dire, on pourra revenir là-dessus, mais que les gens n'ont pas de conscience d'être des ouvriers et qu'ils ne sont pas fiers de ça. Pas du tout, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on se renie de dire ça. Simplement, c'est qu'on est pris dans des affinités, même en dehors du travail. Moi, je le montre ailleurs, sur d'autres scènes sociales, dans les loisirs, etc., même dans les petites combines, les coups de main. On est pris dans des affinités, des solidarités qui peuvent être transclasses. Et ça brouille le schéma. Donc, le vote de droite, il s'appuie aussi là-dessus. C'est-à-dire que les gens qu'on a proches de soi, qu'on considère comme honorables, la figure de l'artisan, de l'auto-entrepreneur maintenant, ils vont tendance à avoir voté à droite et à le faire savoir et à être un peu des entrepreneurs de morale vis-à-vis des autres, qui ont moins, comme ça, un intérêt spontané à voter pour la droite, les défiscalisations, ce genre de choses. Mais on va se ranger de ce côté-là parce que c'est un statut qui est valorisé, un statut politique. Et donc, pour finir sur le côté politique, depuis déjà la fin des années 90, si vous reprenez une carte de France du vote FN, vous retrouvez assez facilement les territoires que j'ai pu enquêter en regardant lesquels ont percé depuis 2002. Donc les Le Pen ont très tôt en fait une assise là-bas qui correspond pas du tout en plus à un maillage militant fort. C'est-à-dire il y a cette difficulté à trouver des candidats, etc. Mais le vote s'est bien installé.
C'est intéressant ce que vous dites là sur toutes ces petites entreprises et la relative proximité qu'il y a entre les salariés et le patron, parce que je trouve que ça fait écho aussi, enfin on y viendra peut-être un peu plus tard, mais ça fait écho au fait que sur les ronds-points où vous êtes allé au début, la plupart des griefs étaient plutôt adressés aux politiques, éventuellement un peu aux médias, mais quand même très peu aux patrons. Et c'est peut-être là une des clés de l'explication, en fait, c'est que la figure du patron, pour eux, c'est celui justement qui mouille la chemise pour maintenir la boîte en vie, avec lequel on peut éventuellement partager des parties de chasse ou un match de foot le week-end.
Ouais, avec lequel on peut aussi, oui, de se sentir pris dans des relations de domination tellement personnalisées, tellement proches, qu'en fait, on mêle ce sentiment de domination peut être vécu, mais en même temps, on exprime une interdépendance. Moi, je reporte un des propos d'enquêté dans le livre qui me parle de cette situation-là, parce que c'est vraiment très intéressant d'essayer de comprendre ce paradoxe. Et les gens, moi, j'ai trouvé que les ouvriers, notamment sur cette situation-là, étaient très réflexifs. C'est-à-dire, j'avais des discours du type. Le problème, c'est qu'on est les meilleurs potes du monde le soir, et puis quand il s'agit de se donner des coups de main, mais il y a des jours où sur le chantier, il y en a un qui me dit, il me parle plus pire qu'un chien, parce que voilà, là, il redevient le patron, et il faut bosser pour lui. Et donc, on n'est pas dupes non plus. Simplement, on sait qu'on est tenu aussi par ces relations d'interdépendance. Et je pense que c'est quelque chose qui traverse un petit peu tout mon livre, que j'exprime peut-être de manière un peu diluée tout au long des chapitres, mais il y a une vraie pesanteur des relations sociales. On peut hériter d'un statut déjà en étant juste le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, par patronyme, on a déjà sa place dans la société d'interconnaissance, mais aussi quand on entre dans une boîte, et si elle est stable, on va être assigné à une position qui va être une position d'exécutant vers quelqu'un de qui on peut être très proche, avec qui on peut être en famille. Et ça a très peu de chances de bouger parce qu'il y a peu de perspectives de créer une boîte concurrente dans le même secteur. Ou alors ça reviendrait à entrer dans un conflit et des concurrences énormes qui impacteraient bien au-delà des deux seules personnes, qui feraient éclater tout leur groupe d'amis, leurs proches, etc. Donc on reste en fait dans ces relations de dépendance-là. Et donc il y en a qui vont les exprimer avec plus ou moins d'amertume, mais on voit bien qu'il y a le sentiment que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui arrivent à tirer pour profit aussi de ces alliances, avec l'idée, donc, comme on disait avant, de la bonne place. Et à mon avis, si les Gilets jaunes, à la base, ont réussi à fédérer comme ça les artisans, il y avait beaucoup d'auto-entrepreneurs, par exemple, qui d'habitude sont fiers de dire on est nos propres patrons, on n'est pas du genre à réclamer. C'est vraiment des trucs que j'entends tout le temps dans les entretiens ou même dans les conversations banales, quoi. Mmh. On se distingue tout de suite de la figure de l'assisté spontanément, même entre pairs et IRS, quoi. C'est quelque chose qu'on fait pour se montrer respectable. Et là, en fait, les Gilets jaunes, ils permettaient de mettre de côté un discours qui les opposerait d'emblée à une autre classe sociale qui serait celle des patrons. Ce qui ne veut pas dire que parmi les Gilets jaunes, on serait complètement candide, parce qu'on a beaucoup entendu qu'ils avaient complètement écarté les relations de travail, qu'ils n'avaient pas de revendications là-dessus. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai observé. Je n'ai pas enquêté en propre sur le mouvement des Gilets jaunes, mais dès le premier jour sur un rond-point, on me disait ce qu'on ne peut plus faire au travail, on le fait ici. J'avais des employés d'un grand groupe de livraison qui m'expliquaient que le management était fait par des personnes qui se relayaient tout le temps, auxquelles on ne pouvait plus s'adresser, alors que là, on était écoutés. Et justement, on dénonçait d'autant plus ces formes-là de multinationales qui s'implantent aussi en milieu rural pour différentes raisons. Mais on dénonce ce management-là parce qu'il est opposé à celui des bons patrons, des bons petits artisans, dont on disait ce premier jour-là, on ne va pas les bloquer parce que c'est eux qui font vivre nos campagnes. Ouais. Et les ouvriers qui travaillaient chez les artisans, ils disaient, nous, le samedi, on ne peut pas venir parce qu'on travaille. Et puis petit à petit, dans le mouvement, ça a tendanciellement été eux, en tout cas parmi ceux que j'ai pu suivre, qui disaient, nous, on n'a pas que ça à faire, on travaille. Donc on n'est pas du genre à réclamer. Donc on est d'accord avec les revendications, mais de là à aller sur un rond-point contre l'intérêt de notre patron qui, lui, nous demande de travailler, là, il y a un vrai blocage.
Oui. Vous avez été surpris ou pas par l'émergence de ce mouvement? Parce que c'est vrai qu'il y a tout un discours sur l'apathie des classes populaires. On se dit que vous, en tant que sociologue spécialiste du sujet, peut-être que vous étiez parmi les plus à même pressentir ce type de soulèvement. Donc comment est-ce que...
Moi, ça m'a complètement surpris. J'avais travaillé sur les 80 km/h en plus, donc j'avais tous les... Et je refaisais du terrain avant les 80 km/h. Quand la contestation contre les 80 km/h a commencé, j'ai suivi, j'ai été interrogé des gens, parce que j'en voyais dans mon entourage même qui m'en parlaient beaucoup, donc j'ai trouvé ça intéressant à suivre. Et en fait, il y a même des personnes qui ont initié les mouvements contre les 80 km/h qui n'avaient pas pris parce qu'on était en été, c'est pas le calendrier parlementaire et tout. Enfin, il y a des histoires aussi qui ont fait que c'est pas ça qui a déclenché, que c'est pas l'allumette. Mais il y en avait qui étaient à l'origine de certains groupes qui ont recréé tout de suite les groupes Gilets jaunes bien avant le 17 novembre. Et le premier jour des Gilets jaunes, j'ai pris ma voiture pour aller sur les ronds-points. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé sur l'autoroute complètement tout seul. J'ai pas cru que la mobilisation sur Facebook et la politisation, effectivement, qui était de longue date autour de la voiture, il y a les radars cassés, c'est pas d'aujourd'hui, les 80 km/h, etc. J'ai pas cru que ça allait, comme ça, soulever un si grand nombre de personnes. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu ce côté où chacun a cru qu'il pouvait y trouver sa place, quoi.
Pourquoi les 80 km/h c'était important? Pourquoi est-ce que ça avait déjà créé un soubresaut? Parce que vu de la ville, donc je vais endosser les habits du citadin prototypique, vu de la ville, on se dit, mais attendez, c'est 10 km/h de moins, mais c'est pour sauver des vies, c'est quand même un enjeu essentiel. Et puis 10 km/h, qu'est-ce que ça change au fond? Enfin, c'est pas non plus si énorme que ça. Pourquoi est-ce que c'était si... Parce que vous parlez beaucoup de la voiture aussi dans le livre, et puis les gilets jaunes, ça commence aussi sur une question de taxes d'essence. La voiture, c'est vraiment, c'est l'un des symboles par excellence du mode de vie des classes populaires en milieu rural.
Il y a deux réponses, je pense. Il y a une réponse déjà hyper basiquement matérialiste. La voiture, elle est essentielle là-bas. Ceux qui n'ont pas de voiture, c'est ceux qui n'ont pas de travail, les plus précaires, qui sont notamment localement stigmatisés, puisque dans certains bourgs, rien que le fait de marcher dans les rues, on dit que vous traînez dans le village. Donc voilà, c'est perçu comme c'est mal vu, vous avez mauvaise réputation, et après, c'est très compliqué de vous faire recommander pour un emploi, etc. Donc déjà, le fait de ne pas avoir de permis, c'est vraiment une forme de marginalisation. Et ça, c'est mal vécu par les jeunes qui sont nostalgiques d'une époque de leurs parents où ils disaient, eux, ils pouvaient tout faire à vélo. Leurs grands-parents, les anciens, ils faisaient tout à vélo. Ils s'étaient rencontrés au bal du coin, ils allaient à l'usine en vélo, ils avaient leur maison à côté, ils faisaient les courses au marché du village. Et maintenant, il n'y a plus ça. Et donc, il n'y a plus ça, il faut prendre la voiture tout le temps. Donc, il y a l'usage contraint de la voiture qui est dénoncé, qui était dénoncé très tôt par les gilets jaunes et avant dans les 80 km/h, parce qu'on me disait... d'ailleurs, j'ai une enquêtée qui est vraiment représentative de ça. Elle dit « je fais que de me manger des amendes parce que c'est une jeune femme qui est mère de famille, voilà, comme les autres femmes sur lesquelles j'ai pu enquêter, enfin, comme la grosse majorité d'entre elles, en tout cas, elle assume les tâches domestiques, donc elle amène les enfants à l'école, donc il y a l'école qui est à 10 km de chez elle, ensuite elle doit aller bosser, c'est encore à 15 km à peu près de là où est l'école, et après elle m'explique qu'en fait il y a toujours aussi à passer au supermarché qui est complètement de l'autre côté, en fait, elle dit « je ne fais que de rouler, et je me mange des amendes tout le temps ». Parce qu'elle court après le temps, et notamment aussi parce qu'elle a un emploi dans le service à la personne, c'est pas valorisé, elle fait des shifts tout le temps entrecoupés, elle est tout le temps dans sa voiture, même pour son travail, etc. Donc ça, c'est compliqué. Et ce sentiment-là de dire, ben, on nous restreint les usages de la route alors qu'on y est contraint, parce que, en fait, on ce que disaient avant les gilets jaunes, les gens dans la vie courante, ils disaient, tout est loin, tout devient loin, mais c'est pas que les entreprises. Les entreprises, on voit qu'elles s'éloignent, on voit que tout s'individualise, mais on voit aussi que les services publics, ils se retirent. Donc il y a ce côté de dire, l'État se retire, il nous laisse faire des kilomètres en plus, et d'un autre côté, il réprime les conduites routières. Parce que, et donc ce sentiment d'être des vaches à lait, c'est ce sentiment à la fois d'être contraint de prendre certaines routes à certaines heures et puis de rouler plus vite pour être à ses rendez-vous et arriver à joindre les deux bouts, tout simplement. Et d'un autre côté, de se sentir piégé. Et après, il y a un côté, une dimension plus symbolique quand même derrière tout ça.
Parce que j'avais demandé, est-ce que c'est pas aussi la voiture, là, je passe sur un autre pan, mais pour les hommes notamment, quelque chose qui rentre en compte dans la construction d'un modèle de masculinité, d'avoir une belle voiture, une
grosse
voiture.
Pour les femmes aussi.
Pour les femmes aussi.
Ah oui, au milieu populaire, en tout cas milieu populaire rural, il n'y a pas de... Pour le coup, les femmes s'approprient la voiture, elles conduisent, elles font des longues distances... Même, par exemple, pour les départs en vacances, ça arrive fréquemment que ça soit elles qui conduisent. C'est plus du tout perçu comme le précaré des hommes. Donc là, il y a ce côté-là de celles qui ont un travail, notamment, et puis qui sont tout le temps en voiture. Elles s'achètent une voiture correcte. C'est notamment la mode des SUV, parce qu'on dit qu'il faut une bonne voiture qui tient le coup, qui tient bien la route, qui roule bien, avec laquelle on peut rouler un petit peu plus vite qu'avec les limitations de vitesse. Et je ne sais pas, faudrait regarder, mais je suis sûr que si on faisait une petite statistique sur qui prend des procès-verbaux pour excès de vitesse, ça ne serait pas forcément que des hommes. Par contre, on sait que les conduites destructrices en voiture, ça c'est quelque chose qu'avait montré Nicolas Renaï, notamment sur les scénarios possibles d'accidents mortels. On a ces spots qui sont diffusés à la télé, ce qu'avait montré le sociologue Mathieu Grosstête, notamment avec des cadres sup en ville, des jeunes étudiants qui font la fête et qui ont un accident. En fait, c'est pas ça. Le scénario le plus logique, celui qui arrive le plus souvent, c'est un ouvrier rural seul qui se tue en voiture tôt le matin ou tard le soir.
D'accord.
Et ça, c'est une constante.
Donc
les morts de la route.
Donc c'est la fatigue plus que.
Il y a une cause. Mais en tout cas, les morts de la route, c'est quelque chose d'omniprésent. Et même, moi, j'ai eu du mal à l'aborder en entretien parce qu'en fait, dans les familles, dans les groupes d'amis, on a tous, en fait, quelqu'un qui est parti à cause d'un accident. En fait, la route, elle décime ces générations-là de la même manière qu'il y a beaucoup de décès, enfin, beaucoup, que tout le monde est marqué. En tout cas, parmi ses connaissances de décès par overdose d'héroïne, parce qu'on est dans le Grand Est, on est sur des départements qui affichent les plus forts taux d'héroïne par habitant chaque année en France. Donc, c'est aussi des. Mais bon, pour en revenir à l'aspect symbolique de la voiture, il y a ce côté qu'on est venu chercher aussi en milieu rural, qu'on en soit originaire ou non, hein, mais pour en tout cas les milieux populaires et les petites classes moyennes du côté du pôle économique, donc, type les artisans dont on parlait tout à l'heure. On est venu chercher et on revendique aussi un style de vie où on a de l'autonomie. On concède de s'éloigner notamment des centres d'emploi, des services, etc., pour pouvoir accéder à la propriété à moindre coût. Une fois qu'on y accède, pour 30 000 euros, vous pouvez trouver une grande maison à retaper. Et bien, vous la retapez avec vos potes, dont chacun a une compétence spécifique dans le bâtiment. Donc, vous pouvez vraiment vous faire une belle maison comme neuve pour une somme relativement mince par rapport à d'autres qui achèteraient en ville, qui feraient par des artisans, etc. Donc ça permet encore à des personnes qui n'ont pas des niveaux de salaire très élevés de répondre à cette injonction de devenir propriétaire. Quelqu'un qui réussit sa vie, c'est celui qui a une maison. On me disait beaucoup, pour les locataires, ils me disaient, quand tu es chez toi, quand tu es locataire, tu n'es pas chez toi. Et on y reviendra parce que c'est quelque chose de transversal, j'imagine. Dans le livre, c'est transversal. En tout cas, c'est cette idée que le chez-soi, il sert pas que à rentrer et puis se mettre devant le canapé. C'est là qu'on entretient en fait toute sa surface sociale, qu'on invite ses amis, qu'on est bien, plus ou moins bien vu selon comment on entretient sa maison et aussi sa voiture. Et ça, c'est important dans les sociétés d'interconnaissance. Et donc, les 80 km/h et après l'augmentation du coût de l'essence, les taxes, ça vient mettre en péril ça. C'est le budget essence. J'ai aidé un jeune couple qui dit ça. Il dit c'est le billet de trop. C'est le billet de trop parce que nous, on a fait quand on a emménagé ici, on a vu nos crédits, nos dettes, etc. On sait qu'on est à la limite, mais on n'avait pas vraiment inclus le budget essence parce que de toute façon, c'est une dépense courante qu'on fait passer comme le budget nourriture. Sauf qu'il explose en fait. Parce qu'on s'imaginait qu'on pouvait aller tous les deux avec la même voiture au boulot, mais en fait, c'est trop éloigné, c'est trop compliqué, on est toujours en retard, on a acheté une deuxième voiture et il y a tout qui augmente, il y a tout qui est loin et on a pris des amendes en plus. On a des PV à payer. Et donc là, c'est ce qui met dans le rouge. Et ça, c'est vraiment perçu. En plus, vu que ça vient de Paris, vu que ça vient de la ville par des personnes qui incarnent en fait un milieu social éloigné et méprisant de leur situation, et bien là, on est sur des propos comme ça où ils nous disent le truc de c'est la Corse sans la mer. C'était vraiment la réaction en fait à ces mesures-là de dire mais nous, on veut pas qu'on. On ne veut pas qu'on nous prenne le style de vie qu'on est fier d'endosser. Et qui est le. Enfin, il y a quand même cette idée que c'est le style de vie qui permet de nous valoriser, alors que si on allait en ville et qu'on était un ouvrier sans diplôme, on serait dans une situation à la fois plus anonyme où personne ne vous reconnaît, donc vous êtes moins important. Et aussi, il y aurait de grandes chances que vous soyez plus précaire dans un logement à bas coût. Et que. Voilà.
Ce que vous racontez là, ça pose aussi la question du rapport à l'écologie, parce que donc tout de suite, en réaction aux Gilets jaunes, il y a eu de la part du pouvoir, pour le dire vite, cette stigmatisation sur ah oui, non, mais en fait, ils n'ont aucune conscience, puisque c'était une taxe censée être justifiée en tout cas par le gouvernement, par des motifs écologistes. Et donc, quel est le rapport justement de ce milieu-là et de ces personnes-là à l'écologie? On sait comment c'est dans les grandes métropoles, on sait que ça va des petits gestes individuels, très soucieux de la lumière, de l'eau et tout, aux mobilisations plus collectives, de marche pour le climat. Mais qu'en est-il de l'écologie dans les classes populaires rurales?
Oui, alors dans les classes populaires rurales, il faudrait préciser sur les jeunes générations. Parce
sur
que,
les
je
jeunes
pense
générations
que.
qui sont le cœur quand même de votre enquête,
Ouais,
c'est plutôt
surtout les trentenaires, des vingtenaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé en fait un rapport à la nature qui est productif plus que contemplatif. Et ça, c'est-à-dire le rapport
C'est-à-dire.
contemplatif à la nature, c'est celui que vous pouvez trouver aujourd'hui, je pense, dans une grande partie des milieux ruraux français, qui ne sont pas des campagnes en déclin, qui accueillent des néo-ruraux, dont on valorise ou on patrimonialise même une certaine identité locale, touristique, une langue locale, etc., avec des beaux paysages et qui attirent les vacanciers, en fait, où on fait des produits locaux, où il y a plus d'entreprises qui font du bio, en fait, où il y a aussi une représentation des cadres et des catégories supérieures bien plus élevée que celle qu'on trouve dans les départements, les cantons où j'ai enquêté, où, en fait, on est sur le miroir inverse de Paris. On a parmi les plus fortes proportions d'ouvriers et d'employés cumulés, si on prend avec d'autres territoires français, c'est pas forcément là où c'est le plus élevé, mais en tout cas, ça fait partie. Et par contre, c'est là où on a les plus faibles taux de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Et du coup, bon, le rapport à l'écologie, mais de manière plus générale à la nature environnante, à l'environnement, c'est un rapport productif, c'est-à-dire qu'on l'utilise. Donc c'est celui de l'agriculture, qui là-bas, on est sur des grandes plaines, il y a des forêts, mais c'est de l'agriculture extensive, conventionnelle. C'est celle-là qui est légitime localement. Voilà, aujourd'hui, elle commence à être mise en cause avec certains scandales de pesticides. Les gens ne sont pas passifs par rapport à ça. Mais il y a aussi ce côté qu'on veut être, encore une fois, maître de l'usage qu'on veut en faire. Et par exemple, la chasse est beaucoup pratiquée dans ces campagnes du Grand Est, et notamment par les catégories populaires, même si ça devient un loisir de plus en plus cher, qui est de plus en plus excluant, clivant. Malgré tout, il y a ce côté, il y a cette idée de dire bah, ici, tu peux aller à la chasse sans qu'il y ait des écologistes. Par exemple, il y a moins de conflits d'usage de la nature qu'il y en aurait, par exemple, en Ardèche. Oui. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre avant d'évoquer le mot écologie à leurs yeux, pour savoir un petit peu à quoi ça représente. Parce que si vous les interrogez là-dessus, ils vont assimiler ça à écologistes, donc pour eux, des urbains, plutôt de classe sup, qui ont une vision méprisante de leur conduite. Par contre, dans les pratiques concrètes, et ça, c'était quelque chose que mettaient en avant les Gilets jaunes très vite, parce qu'ils se sont saisis aussi des savoirs qui circulaient, ils disaient, c'est pas nous les gros pollueurs, c'est pas nous qui prenons l'avion, c'est pas nous qui polluons comme les raffineries, etc. Donc nous, on prend notre voiture parce qu'on y est contraint et on aimerait bien faire autrement si possible.
Là, vous parliez de la ville, des urbains et même plus particulièrement de Paris comme figure repoussoire. C'est intéressant parce que ça pose la question de l'ailleurs, de la possibilité du départ. Alors on disait en commençant l'entretien que évidemment ceux qui partent, ou plutôt celles qui partent, c'est parce qu'elles ont la possibilité de partir, parce qu'elles ont franchi, disons, avec succès cette étape du tri scolaire. Mais ceux qui restent, ils peuvent quand même aussi avoir des envies, ou en tout cas des pensées d'ailleurs. Quels sont-ils, ces ailleurs ? Donc vous avez mentionné le rapport, voilà, Paris qui fait quand même assez vite figure de repoussoir. Vous parlez de la Suisse aussi, qui n'est pas si loin que ça.
On est dans le Grand Est, donc on n'est pas loin de la Suisse, et ça fait figure d'Eldorado. Mais là, ça serait encore plus prononcé pour celui qui irait enquêter, par exemple, dans les terres du Jura, où là, il y a une population frontalière vraiment qui s'installe, et où il y a des figures d'ouvriers enrichis. Qui peuvent avoir un salaire qui est celui d'un cadre en France, mais en Suisse, c'est celui d'un ouvrier. Donc si on arrive à habiter de l'autre côté de la frontière et à faire sa vie comme ça, c'est des figures en fait, de réussite qui sont très valorisées.
Mais réelles ou fantasmées, ces figures
Elles sont largement fantasmées, parce qu'en fait, pour eux, c'est compliqué de mettre en place ces stratégies-là, de trouver un boulot là-bas. Mais malgré tout, il y a toujours quelques exemples qui sont retenus ça fait partie quasiment des légendes locales, de celui qui est parti en Suisse et puis qui, de fil en aiguille, s'est tissé à des réseaux, à arriver à avoir des bons postes et même à devenir un peu entrepreneur là-bas, et sans diplôme, en fait, à s'enrichir. Alors même qu'on ne retient pas l'exemple de l'étudiante qui a fait un master et qui a trouvé un bon emploi. On n'a pas, par exemple, quand elle a obtenu ses diplômes, on n'a pas fêté sa maîtrise ou sa licence au village. Ce n'est pas ça qui s'est passé. On ne lui a pas demandé comment se passait la fac, vu que c'est un monde qui est lointain. Et par contre, les étudiantes, elles, en retour, elles me disaient, le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils ont tendance à te zapper, ils te demandent pas, ils ne se préoccupent pas. Et quand tu n'es plus dans les histoires, quand tu ne fais plus partie de leur sociabilité qui est très intense en semaine et en week-end, en fait, tu as tendance à te sentir sorti du groupe. Et ça, c'était paradoxal, parce qu'il y a d'autres figures un peu extra-locales. Je pense notamment à ceux qui font des carrières militaires. Il y en a certains qui peuvent devenir pompiers professionnels. Il y a plein de métiers comme ça extra-locaux, mais qui reposent en fait sur des compétences plus ou moins acquises localement, plus ou moins valorisées, même en tant que bénévole, par exemple, on peut penser pour les pompiers. et qui permettent en fait d'être convertis sur un marché du travail qui n'est pas local, qui est national, mais qui vous replace en fait dans la sociabilité locale à plus, dans une position tout à fait dominante en fait. Et vous revenez 3 jours par semaine d'ailleurs avec les permissions, ce genre de mode d'organisation du travail leur permet d'exister encore localement à ces jeunes-là. Et donc ça, c'est des figures de réussite populaires, qui peuvent être de l'extraversion à terme vers les classes moyennes si on fait carrière, etc., mais qui ne renient pas les modèles qui localement sont aussi dominants, qui sont ceux des ouvriers qui ont une bonne place, comme on disait, ou je sais pas moi, j'ai par exemple des figures féminines aussi, d'une vendeuse dans la boulangerie qui très tôt gère les comptes et puis qui va prendre de la responsabilité dans cette entreprise dont on dit que c'est elle qui fait en fait tourner la boulangerie. Donc voilà, tout ça c'est des métiers qui sont très bien vus et sans par ailleurs nécessiter, comme on disait, tout un tas de certifications scolaires qu'on remet à distance, qu'on a tendance en fait à ignorer.
Contre l'idée que dans ces cantons, ils seraient rongés en quelque sorte par l'individualisme, voilà, le repli de chacun sur soi, ou en tout cas de chaque entité familiale sur elle-même, vous mettez vraiment en avant le fait que subsistent des formes de sociabilité, d'intégration. Mais du coup, la question que ça pose, et c'est ce que vous décrivez très bien dans l'ouvrage et sur quoi j'aimerais vous entendre, c'est que ces lieux de sociabilité, d'intégration, il y a encore 30 ans, on sait où ils étaient. Ils étaient tout simplement d'abord dans les usines, dans l'usine, autour de l'usine. Ils étaient aussi dans les cafés, dans les bars. Mais vous dites, par exemple, sur tel canton, là où il y avait 30 bars auparavant, aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Donc ces lieux-là, ils ont disparu. Et est-ce que ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant, que ces lieux de sociabilité, ils se sont déplacés, ils se retrouvent maintenant, vous décrivez longuement, des intérieurs, des intérieurs de maisons, des salons notamment. Vraiment, vous décrivez l'agencement de l'espace, c'est intéressant. Et c'est là maintenant que ça se passe et qu'on recrée des micro-sociétés.
Vous avez bien résumé. Moi, je trouvais intéressant d'insister là-dessus pour aller vraiment à l'encontre de notamment d'articles de presse que j'avais pu lire qui portaient sur des villages proches ou même certains où j'ai pu moi-même travailler et qui, en fait, juste concluaient au fait que tout était mort, tout était fermé. Alors déjà, si on regardait vraiment de près, tout n'était pas fermé. Simplement, il est vrai que j'enquête sur des cantons où parfois il y avait une trentaine de bars qui étaient ouverts dans les années 70. Et quand vous n'en avez qu'une poignée aujourd'hui, ça choque. Mmh. Et même sur les maisons individuelles, il y a beaucoup de maisons qui peuvent être abandonnées. Et les villages, notamment les bourgs, ils vont se redévelopper en périphérie du centre-bourg. Le centre-bourg, il va être délabré. Il va concentrer plutôt... il peut rester quelques demeures bourgeoises de l'ancienne époque industrielle, mais aussi concentrer une population pauvre, même très pauvre, parce qu'elle a souvent été... elle a atterri ici parce qu'elle a été soit sortie du système des HLM, donc elle va louer à des bailleurs privés à bas coût, soit aussi pour remplir des HLM ruraux qui sont vacants, en fait, qui sont moins chers. Donc il y a ce côté-là du coup qui va être un peu ça va être un endroit quasiment devenu repoussoir dans certains bourgs, pas dans tous, mais voilà. Et les bars sont situés là. Oui. Alors même que en fait c'est des zones pavillonnaires attenantes où construisent les classes populaires stables sur lesquelles j'enquête principalement. Et là il y a une vraie opposition entre ces lieux-là. Et en même temps c'est des générations qui arrivent aujourd'hui. Qui ont sorti de l'adolescence et qui, à l'adolescence, pouvaient justement avoir subi des formes de contrôle social pesantes quand, comme il disait, on traînait dans le village.
Par la police, par le regard des gens, des adultes.
Il y a notamment on évoquait les consommations de drogue, par exemple, sans que ça soit forcément l'héroïne partout, même rien que la consommation de cannabis, ou le fait que les jeunes se rassemblent. C'est venu, notamment avec les années 2000, avec l'apparition aussi d'un plus fort taux de chômage. Il y a en fait des préoccupations, des tensions qui sont arrivées. Et on ne disait plus les gamins du coin, mais c'était ces jeunes qui traînent et qu'on connaît de moins en moins, parce que voilà, il y a toute cette interconnaissance qui se délitait, qui est liée au fait, à plus grande échelle, que les emplois, eux aussi, se sont disséminés. Donc on est amené à faire plus de kilomètres, et toute cette interconnaissance, au lieu d'être les gens du village qui se connaissent tous, c'est un périmètre beaucoup plus vaste. Et tout ça, en fait, ça fait que la confiance qui pouvait se faire par le fait qu'on s'identifiait directement, là, elle est moindre. Moi, notamment, j'ai vu des personnes de génération de retraités qui disaient on ne connaît plus les jeunes. On ne connaît plus les jeunes et on les voit juste garer la voiture. Et effectivement, ils vont travailler loin, ils garent la voiture là où ils habitent, et une fois qu'ils sont garés, c'est leurs copains qui passent à la maison. Mmh. Et donc c'est pour ça aussi l'investissement dans le foyer, il est pour éviter de se retrouver dans des lieux où potentiellement on peut être critiqué. Et après, c'est on fait de nécessité vertu. C'est-à-dire qu'on dit on est mieux à la maison parce qu'au bar, non seulement on paye, c'est aussi quelque chose de juste économique. On peut dire on a investi beaucoup dans la maison, ça nous a coûté cher, on ne va pas en plus aller dépenser l'argent.
C'est moins cher d'acheter une bouteille qu'on ramène à la maison.
On va acheter des bouteilles à l'étranger, même on peut monter au Luxembourg pour acheter des taxés, des bouteilles de Ricard ou de whisky en Magnum et des clopes et voilà. Et ça aide au budget. Hein. Vous pouvez, parce que ça a quand même un coût, toutes ces sociabilités-là. Et donc la maison, elle est perçue comme un espace où on a aussi la capacité, dans toute cette ambiance qui peut y avoir de conflits latents, on pourra y revenir après, mais on a l'idée qu'on a sélectionné et fait le tri, c'est une opération qui est une expression qui revenait souvent. On a fait une opération de triage entre les saluts ça va, les gens de la terre connaissance, tous ceux qu'on côtoie, mais dont on est obligé de côtoyer, mais sans l'avoir choisi, et ceux avec qui il y a une vraie affinité sociale, il y a des alliances, il y a des solidarités. Et ça, c'est les vrais potes sur qui compter, et ceux-là, on les accueille chez soi. Et ils viennent quand ils veulent. Et on se voit plusieurs fois par semaine. Ouais. Et en même temps, on prend du bon temps, on boit des coups et on rigole, etc. Mais en même temps, on s'entraide. Ce n'est pas simplement de l'hédonisme. Ce n'est pas un simple hédonisme. C'est toujours lié, mais ce n'est pas que ça. Et donc, la maison, elle permet, en fait, de vous assurer ça. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans la baie vitrée, le grand canapé. Il y en a même qui construisent des intérieurs où on a l'impression que c'est des salles de jeu pour adultes, finalement. Il y a tout ce qu'il faut pour y passer la soirée, prolonger ad vitam aeternam l'apéro, parce que sinon, terminer l'apéro, c'est aussi chacun rentre chez soi en couple ou en célibataire. Alors que là, on peut un peu mettre le temps en suspens et puis finalement, c'est des sociabilités qui se prolongent. Et ça, on valorise vachement. C'est être un bon hôte, c'est devenu quelque chose qui fait de vous un peu le leader aussi de votre bande de potes. Donc c'est forcément, ça vous place dans une position qui peut même vous rapporter certains bénéfices à terme.
Je reviens sur la question qu'on avait rapidement abordée tout à l'heure de la conscience de classe, notamment de classe ouvrière, parce que je crois que c'est quand même un point décisif et qui a des résonances aussi politiques. Je reviens là-dessus parce que, évidemment, je sais pas, c'est pas évident pour tout le monde, mais la classe ouvrière, d'un point de vue objectif, statistique, elle existe toujours. Je sais pas, selon l'INSEE, c'est quoi? C'est 20% de la population active, peu près, quelque chose comme ça. Donc, elle existe toujours, mais on entend beaucoup quand même, et ça, il y a aussi des indicateurs quantitatifs qui le montrent, que cette classe en soi n'est plus une classe pour soi, que la conscience de classe s'est érodée. Vous, tout à l'heure, à un moment, mais peut-être, c'est pour ça que je vais vous relancer là-dessus, vous disiez non, quand même, il y a toujours une conscience de classe, elle persiste, j'ai recueilli des paroles sur les ronds-points quand même contre les patrons. Et en même temps, moi, je vois dans votre livre et dans ce que vous venez de dire là, des éléments qui vont dans l'autre sens, qui me font penser que s'il y a une conscience de groupe, oui, il y a peut-être une conscience de groupe, c'est notamment, c'est ma bande de potes, c'est les miens, et on est comme des frères, donc là, on sent une vraie conscience, mais c'est une conscience de bande de potes, mais c'est pas une conscience de classe, pas une conscience de classe ouvrière, c'est même d'ailleurs presque ce que vous dites, une expression, c'est important, il y a beaucoup d'expressions disons désenquêtées que vous reprenez pour en faire des clés de compréhension de ce qu'il livre. Il y a une expression qui revient beaucoup, c'est à propos des bandes de potes, c'est nous d'abord.
Ouais, déjà nous.
Déjà nous, d'abord. Voilà, oui, c'est ça. Et ce déjà nous, j'ai l'impression qu'il peut, je ne dis pas que c'est automatique, mais il peut facilement être converti en les Français d'abord et du coup servir un peu de tremplin politique à l'extrême droite. Et donc, en quelque sorte, c'est une conscience de groupe qui presque, fait carrément obstacle en fait à une vraie conscience de classe, puisque c'est une conscience qui peut faire tremplin au racisme.
Ça dépend ce qu'on... En fait, l'obstacle, parce qu'il n'y a peut-être aussi pas l'offre qui répond directement. Alors, je reviens au début de votre remarque. Comment ça se fait qu'on n'est plus dans un « nous » qui, finalement, engloberait la classe sociale? Le « nous » à la Richard Hogarth, le « nous, eux », »,« nous, les ouvriers », le « eux », les quartiers lointains des patrons et de la bourgeoisie, et le « nous des ouvriers du coin, quoi, finalement. Là, on n'est plus là-dedans parce que croire que tout le monde peut être allié de tous, Ça serait, alors ça c'est une expression qui revenait beaucoup, mais que je trouve marrante, et qui disait beaucoup, il faut pas être des bisounours. Moi j'incarnais la figure du bisounours, notamment parce que j'incarnais aussi plutôt un positionnement politique de gauche, alors l'étudiant aussi, le naïf finalement, qui travaille pas encore vraiment, donc ça c'est les bisounours. C'est ceux qui, ne et on m'a beaucoup expliqué comment, dans la vie quotidienne, dans leur trajectoire, ils sont jeunes, mais ils ont déjà vécu beaucoup de concurrence avec des semblables. C'est-à-dire que vous êtes sur des marchés du travail à tonnes, où souvent on attend qu'il y ait un ancien, un daron, comme on dit, qui parte à la retraite, quelqu'un qui laisse sa place pour postuler. Et ceux qui postulent sont souvent ceux qui ont exactement les mêmes profils sociaux.
Donc ils sont potentiellement amis par ailleurs, qui se retrouvent dans les mêmes groupes.
Qui ont des affinités et de goûts, etc., qui peuvent être des voisins d'enfance. Et donc c'est très compliqué de croire comme ça en une abondance qui permettrait d'ignorer les concurrences. Et la mise en concurrence du coup objective des travailleurs dans ces milieux désindustrialisés, ruraux, où il n'y a pas eu vraiment de reprise économique depuis les années 90, elle est digérée aujourd'hui sous forme d'une conscientisation et de dire on ne peut plus dire voilà... Déjà je ne sais pas s'ils ont déjà dit nous les ouvriers un jour dans le... Et si, faudrait vraiment, et ces questions-là, c'était plus incantatoires que déjà réelles, même dans la sociologie à l'époque. Mais en tout cas, il y a cette idée que, en même temps, il ne faut pas être des bisounours, mais d'un autre côté, à mesure qu'il y a des structures un peu de pérennité des groupes sociaux qui ont pu se déliter, les usines, vous l'avez dit, mais il y a les associations, tout ce qui va avec, le collectif, on sent qu'il est moins établi par des structures pérennes. Et donc on investit en fait dans les groupes d'amis, dans ses semblables aussi, pour avoir une reconnaissance, avoir une bonne réputation. Tout ça, on ne l'acquiert pas tout seul. C'est pour ça que tous les discours sur l'individualisme, pour moi, ils passent complètement à côté. À mesure qu'il y a précarisation, à mesure que le chômage il fait figure d'épouvantail, qu'on m'a pu me dire « un homme qui ne travaille pas ne vaut rien », et c'est des choses qu'on dit d'autant plus alors qu'il y a de moins en moins de travail et qu'on a d'autant plus de chances de ne rien valoir, alors parce qu'on n'a pas, on va pas trouver de travail. Ben, à mesure qu'il y a ces discours-là, on essaye de les contrer, en devenant la figure en fait d'un jeune adulte respectable. Et comment devenir respectable, c'est en s'assurant aussi d'être bien entouré par des amis, des vrais potes sur qui compter. Qui c'est souvent par ces bandes d'amis, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il me semble que c'est un peu un point aveugle de beaucoup d'enquêtes sociologiques, alors même que c'est souvent par la bande de potes, le clan d'amis, comme ils disent, qu'on a trouvé son conjoint ou sa conjointe, qu'on a trouvé son emploi, par recommandation, par piston. Et donc tout ça, cette logique de voilà, il faut être bien vu, il faut être recommandé, elle exacerbe aussi les concurrences, parce que quand c'est un de vos amis d'enfance qui va avoir l'emploi sur lequel vous postuliez aussi, qui l'a par piston, vous le vivez comme une injustice. Donc après, le nous comme ça, incantatoire, ça va pas leur parler. Par contre, moi, j'ai trouvé très fort quand même que ça, c'est une expression évidemment que je mets en avant, alors que vous l'entendrez pas tous les jours hein, dans toutes les conversations. Mais déjà nous, nous d'abord, que nous, et que je disais, mais c'est pourquoi déjà nous? Parce que déjà ceux sur qui je peux vraiment compter, c'est-à-dire que j'identifie, je peux compter exactement qui fait partie du nous, et dans ce cercle-là, là, il y a une conscience collective, et là, on valorise fièrement. Des exemples de solidarité qui ont marché, des coups de main, des petites combines pour se constituer, comme j'ai vu, par exemple, des bonnes équipes de travail au noir. Et donc là, on est dans une forme aussi de politisation du concret, des solidarités concrètes. Et c'est, à la fin, c'était la référence à l'extrême droite. C'est vrai que ça résonne avec les Français d'abord, mais... Là, pour le coup, on peut voir des échos très, très concrets. Hein. C'est parce que l'affinité avec l'extrême droite, c'est une des affinités politiques qui, dans les conversations banales, était certainement la plus exprimée. Même si, vu qu'on est en milieu populaire, moi, j'ai observé les bureaux de vote les jours d'élection, beaucoup ne viennent pas voter parce qu'il y a une défiance vis-à-vis du vote.
Mais alors même qu'ils peuvent se dire 100% Le Pen 100%, dans des discussions
comme
ça. Oui,
parce qu'on ne le dit pas à moitié. Si vous voulez avoir raison, il ne faut pas s'affirmer à moitié et il ne faut pas montrer le doute là-dessus. Mais par ailleurs, ils ne vont pas voter, ce qui montre qu'ils sont... Il y a un sentiment d'illégitimité vis-à-vis du vote aussi, mais aussi c'est une adhésion qui peut être opportuniste parce qu'elle résonne avec quelque chose qu'on vient de définir sur le mode du déjà-nous. Et donc ça tombe dans l'escarcelle de l'extrême droite des Français d'abord, mais sans qu'ils l'aient fait vraiment exprès. Par exemple, on m'a dit Marine Le Pen, elle est la seule à dire que ça pète quand même un peu partout. et donc à brosser un espèce de tableau conflictuel du monde, du que ça pète partout, qui en fait serait une espèce de déformation en plus grand du tableau des relations sociales locales qu'on m'avait dépeint.
Et pourquoi ils disent pas Jean-Luc Mélenchon, il est le seul à dire que ça pète de partout, parce qu'il le dit aussi finalement.
Ben, il le dit aussi, mais pas dans un, en tout cas pas dans un registre qui les interpelle vraiment. Et puis il y avait, moi c'est là aussi où il faut voir le vote Mélenchon sur les vraiment sur, pas au niveau départemental, mais si on regarde vraiment au niveau des cantons ouvriers, il a quand même bien percé hein, sur
la dernière présidentielle.
Ouais. Et donc j'ai rencontré plusieurs enquêtés pouvaient m'exprimer ça dans les entretiens, alors même que moi j'avais jamais supposé qu'ils pouvaient voter à gauche. Et ils me disaient mais ici tu peux pas en placer une. C'est ceux de droite, en fait, qui parlent politique. Et c'est ce point de vue-là qui est légitime localement, qui sert à mettre à distance les assistés, à dire qu'on est contre, qu'on est pour le travail, qu'on est aussi pas un bisounours qui a conscience de ces conflits-là. Et j'ai même un enquêté qui se dit un jour bien de droite, devant justement ses amis artisans, etc., donc qui incarne la droite valorisée localement, de figures enrichies, etc., et qui, par ailleurs, il a voté Mélenchon en 2012. Et puis, ça peut bouger. C'est-à-dire qu'on peut voter pour... Mais parce que, là encore, qu'est-ce qui séduisait ? Alors, je ne veux pas en faire une généralité, mais c'était ce côté, justement, il va au clash. Il a bien dit que, voilà, il y en a... Il a retraduit ce tableau conflictuel, en fait, et il me semble aussi... C'est pour ça que j'en reviens quand même à... Moi, je suis pas politiste, mais il faut quand même voir que l'offre militante, même très localement, ils n'ont pas de figure locale valorisée qui incarne la pensée de gauche, là-bas, pour des raisons historiques hein, liées au maillage. Mais aussi, dans les médias, même dans les médias dominants, ces discours pénètrent beaucoup moins. Et peut-être aussi qu'à l'époque où la gauche était beaucoup plus implantée dans les milieux populaires, elle avait un discours qui retraduisait quand même plus les termes de la lutte des classes et qui donc dépeignait une vision conflictuelle du monde. Et il me semble que c'est compliqué de se définir un « nous » sans s'opposer à quelque chose quand on est en position d'exécutant, qu'on est dominé économiquement et culturellement, qu'on habite des territoires relégués et qu'on en a le sentiment exacerbé au jour le jour. On a besoin aussi d'être lucide. On ne peut pas simplement incanter un « nous » qui serait que juste un sentiment de positivité et d'alliance.
Totalement inclusif, quoi.
Voilà. Enfin, donc, ça, c'est, ça, pour eux, c'est, en fait, c'est un des ressorts qui me semble... pour moi, assez constitutif de ce qu'est la vision du monde des milieux populaires aujourd'hui.
Ouais, d'accord.
En tout cas, en milieu rural.
Donc un discours de gauche qui parviendrait, enfin, je ne dis pas qui conquérerait entièrement cette région acquise de longue date à la droite, voire même à l'extrême droite aujourd'hui, mais un discours de gauche qui parviendrait quand même à avoir certaines prises, c'est un discours qui proposerait une vision conflictuelle du monde assez assumée.
Ben, je dis pas oui. Après, je dis pas qu'il y en a pas. C'est simplement que voilà, il n'est pas, en tout cas, diffusé et repris et incarné aussi par des figures. Parce que c'est très important qu'on est dans des milieux où tout le monde se connaît. Ou comme le pendant du fait qu'on arrive à renverser un petit peu la table des valeurs, ça c'est l'expression de Bourdieu qui montre bien, je pense, que ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que on va valoriser la réussite d'un ouvrier, on renverse la table des valeurs par rapport à ce qu'on peut voir sur l'espace social national, mais ça implique aussi un fort conformisme, c'est-à-dire que on veut ressembler à ses amis, quand il y en a un qui devient mère ou père de famille, ben, les autres suivent. Des trucs, des investissements, des biens de consommation, on voit qu'il y a un fort conformisme là-dedans. Et du coup, il me semble que ces personnes-là, qui sont plus ou moins un petit peu les chefs de bande, enfin les leaders charismatiques, forme de charisme populaire très forte, il y en a qui sont parrains de plusieurs enfants, voilà, tout le monde veut se rapprocher d'eux, souvent, ils se positionnent comme proches de l'extrême droite. Et ou en tout cas du bien de droite, comme j'ai pu l'entendre. Et ça joue beaucoup, ça, en fait, dans les vraies convictions politiques, la manière dont elles se forment.
Je reviens à la question de la conflictualité politique qui, pour moi, à mon sens, peut s'incarner aussi dans certaines colères politiques. Le Mélenchon, là, le jour des perquisitions, ouais. La République c'est moi, ma personne est sacrée, etc. Mmh. Ça a beaucoup hérissé et brusqué les classes moyennes et supérieures qui se sont dit ce type est pas stable, on pourra jamais en faire un président, etc. Y compris chez des gens qui avaient voté pour lui en 2017. Quelles sont les réactions que vous avez observées?
Ça, j'ai pas vu cet événement-là commenté, ouais. mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir. Moi, je me suis beaucoup retrouvé finalement à voir les réactions à la télévision de manière générale et de voir comment les messages globaux, enfin, qui touchent pas à la réalité locale, parce que c'est très rare que ces populations-là soient vraiment représentées dans ce qu'elles vivent vraiment. Il y a le 13h de TF1 qui va montrer les métiers d'antan, etc. Mais je suis sûr, il y a 5 à 6% d'agriculteurs en milieu rural. Les gens sont ouvriers, employés, artisans, petits commerçants. Voilà, c'est ça qui représente leur vie quotidienne. Et le message est toujours un peu retraduit avec ce qui se passe ici. Et par exemple, un truc...
C'est des classes parlées, c'est ça, disait Bourdieu.
Parler plus qu'elles ne parlent, quoi. Et qui sont obligées, d'endosser la définition que les autres donnent d'elles-mêmes. Donc, si elles veulent se définir, il faut déjà qu'elles commencent, comme je le fais dans mon livre, en fait, par contredire tout un tas de discours qui sont là avant, mais à qui on n'a rien demandé.
Mais comme les... Enfin, je fais un parallèle, un grand parallèle, mais comme les femmes voilées aujourd'hui.
Oui, voilà, mais c'est des groupes, de toute façon, les quartiers populaires urbains et les ruraux. Moi, avant, j'avais travaillé sur les jeunes dans une cité de banlieue parisienne. J'avais fait une enquête ethnographique un peu de la même manière, mais plus courte, et j'avais trouvé plein de points communs dans les trajectoires, notamment de mise en couple, de recherche de travail, les logiques de réputation. En fait, on est sur des mondes populaires d'interconnaissance, donc il y a plein de trucs en commun. Mais bon, le sens commun veut qu'il soit aux deux spectres, au bout du spectre de la jeunesse, comme ça, française, parce que, voilà, ça serait les opposés. Mais pour en revenir, par exemple, sur ces histoires de ce qu'il y a dans les médias, du discours politique, il y avait à l'époque du mariage gay, où Hollande passe le mariage gay. Il s'avérait que dans un des bassins d'emploi, il y avait des fortes délocalisations. Et il y a eu des réactions sur le côté, il est en train de passer, il est en train de s'occuper des homos, alors que nous, on les localise. Et ça, c'est en fait sur un fond plus ou moins fort de rejet de l'homosexualité, hein, parce qu'il peut être... C'est un peu... En fait, là, c'est des discours, c'est un peu comme le racisme tel qu'il peut s'exprimer, quoi. Vous avez des personnes qui vont se dire ouvertement racistes et qui ont des amis arabes, qui ont des amis racisés, etc. Et de la même manière, vous avez des personnes qui vont vous sortir des trucs très homophobes et qui peuvent, par exemple, notamment dans leur famille, côtoyer des homosexuels, être dans des relations de solidarité et d'entraide. Donc c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai essayé toujours de remettre un peu de matérialité, de voir qui concrètement est ami avec qui. Qui va aider un autre à trouver un emploi? Qui va aider l'autre à déménager, à construire sa maison? Qui se met en couple avec qui? Et souvent, je trouve que ça rappelle un petit peu que derrière tout ce qu'on nous présente, comme la théorie du grand choc des civilisations, etc., tous ces discours-là, ils sont un peu... en fait, ils passent à la trappe toutes les solidarités réelles, sur lesquelles, si moi j'étais un décideur politique, j'essaierais de m'appuyer quand même.
Oui. Prendre appui sur ces tensions, voire ces contradictions.
Voilà.
Ouais. Moi, je voudrais creuser un peu ça parce que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur à quel point, en fait, ce racisme, pour prendre ce phénomène-là, est ancré ou pas, peut être déconstruit ou pas. François Ruffin, il avait fait un texte quelques mois après son élection comme député dans Le Monde diplomatique, qui était une forme de bilan public de sa campagne et des raisons de son succès. Et il disait, je suis allé à frapper, il a fait du porte-à-porte. Donc on n'est pas exactement chez vous, on est autour d'Amiens, mais je suis allé faire du porte-à-porte, on m'a ouvert, et il disait, le premier message que j'ai cherché à porter, c'était votre ennemi, c'est pas l'immigré, c'est le banquier. Et il raconte, et là, les gens, alors pas systématiquement, mais quand même assez souvent, disaient, ah oui, c'est vrai, c'est le banquier, donc je vais voter Ruffin plutôt que le candidat lepéniste. Mais moi, en lisant ça, je sais pas, je me suis dit, il fabule un peu, ça me semble Ça me semble sous-estimer en fait la prégnance, justement. Enfin, il suffit pas juste de sortir cette phrase magique, c'est pas l'immigré, c'est le banquier, voire même de rajouter un ou deux chiffres derrière pour tout d'un coup, comme ça, défaire ce que des années, des décennies de socialisation ont produit chez. Enfin, voilà. Et donc, ça m'intéressait. Enfin,
Oui.
j'exprime ça malheureusement, mais ça
Non, non,
m'intéressait d'avoir votre point de vue là-dessus.
mais c'est toujours la même chose dans ce type d'anecdote. C'est certainement raconté tel que ça s'est passé. Simplement, c'est Monsieur Ruffin, le député, ou le futur député, qui vient frapper à votre porte. C'est quelqu'un d'important. C'est de la même manière que quand il y a un micro-trottoir le lendemain de l'élection, on va dire que oui, on a voté FN. Enfin, en fait, les journalistes viennent chercher une forme d'authenticité, on leur donne. Je pense que là aussi, face à un homme politique d'une certaine carrure, etc., une importance, on le voit à la télé, bah oui, on va tendance à avoir se laisser convaincre simplement. Et c'est la même chose, même en entretien avec le sociologue, en fait. Il y a une forme d'empathie qui se crée, des personnes qui se déclarent, par exemple, de gauche, et aussi pour pas s'embrouiller, pour être d'accord, parce que voilà, on aime mieux être en empathie plutôt qu'en conflit avec quelqu'un qui a des diplômes, qui va certainement nous saouler à faire des longues phrases. Comme on disait, nous, on n'aime pas phraser, tu sais. C'est-à-dire que phraser, c'était déjà une conduite qui était perçue comme une forme d'arnaque. Celui qui développait des arguments trop longs et puis qui était ambigu, qui essayait de nuancer, c'était qu'il voulait nous vendre quelque chose. Voilà. Et donc, et c'est un peu la même manière dans les positionnements politiques. Et du coup, il pouvait y en avoir qui me balançaient, effectivement, moi, je suis raciste. Et puis, regardez concrètement qui était chez eux les trois quarts du temps, ben, il y avait des jeunes issus de l'immigration. Par contre, et il y avait des relations d'alliances concrètes, et là, ça, j'en ai des tas d'exemples. Donc, effectivement, ce paradoxe, il est vrai, quoi. Il est vrai. Et l'idée de dire oui, là-bas, ils votent FN parce qu'ils n'ont jamais vu un arabe, c'est pas tout à fait vrai, quand même. Je pense qu'il, notamment vu la ségrégation urbaine et comment sont organisés les quartiers dans les grandes villes, il y a moins de stratégies d'évitement en milieu rural et on est sur des milieux populaires qui se côtoient quand même. Et du coup, par contre, c'est là où il faut un peu déchanter. Parce que oui, le populisme voudrait que, ben voilà, on dit en fait, c'est regarder, c'est juste le discours qui n'est pas adapté. En fait, les solidarités, elles sont là. Parce que quand on va voir, qu'on interroge directement les jeunes issus de l'immigration maghrébine, parce que c'est d'eux dont il est les trois quarts du temps question, ben on dit, oui, ben, il y en a qui me disent, lui, il est comme nous. Donc ça, c'est le discours, voilà, de ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, qui vont dire, c'est mon pote, c'est pas pareil que les autres. Donc déjà, voilà, on connaît ce discours-là. Ça veut dire que le racisme latent, il persiste. Et il y en avait qui pouvaient presque essayer de chercher des excuses en disant, bah, tu sais, ici, ils ne captent pas Skyrock. Enfin, je veux dire, c'était des trucs en disant, ils disent ça parce qu'ils ne savent pas comment en parler aussi, alors que, bah, oui, c'est vrai que c'est mon pote. Et par contre, quand il y a un conflit, quand il y a des inimitiés, quel discours est disponible, diffusé très massivement et même légitimé aujourd'hui pour exprimer un conflit avec quelqu'un qui est racisé? Ça va être effectivement des insultes racistes. Et comme me l'exprime un enquêté dans le livre, il dit ce qui fait le plus mal, alors peut-être que je déforme un peu ses propos, mais il dit c'est que c'est des potes, des personnes avec qui tu t'es depuis toujours qui te le disent. Alors qu'avant, tu vois. Et là, il y a cette stigmatisation qui use du vocabulaire raciste. Et de la même manière aussi, c'est complexe parce qu'entre les 10 petits blancs, quand il y a un conflit, il y a énormément aussi de calomnies, d'insultes qui passent par des insultes qui sont pas du racisme, mais qui en tout cas sont une stigmatisation renvoyée à un groupe social. Par exemple, ça va être le cas social. Voilà, ces formes de mise à distance pour dire on n'est plus du même monde en fait. Et donc là, c'est très fort, mais ça tient beaucoup quand même. Quels sont les registres disponibles aujourd'hui pour exprimer ces distances sociales et avoir une forme de mise à distance dont on sait qu'elle va marcher, sur lesquelles on peut s'appuyer en disant, vous voyez, je vous l'avais bien dit, on croyait être amis, mais non.
Alors justement, pour conclure cet entretien, on avait commencé avec les registres disponibles pour caractériser ces classes populaires du monde rural, et on avait commencé, enfin vous aviez commencé par voilà, déconstruire un certain nombre d'expressions comme les petits blancs, enfin la France oubliée, ce genre de choses. Il y en a une qu'on avait oubliée, alors qu'elle est centrale, c'est celle de France périphérique, bon, qui a été, je pense pas qu'il en soit l'initiateur, mais c'est vrai qu'elle a été popularisée après l'ouvrage du géographe Christophe Guiduy.
Oui, c'est sa notion.
C'est sa notion, c'est sa notion, c'est ça. Vous, c'est pas du tout une expression que vous reprenez, ou alors seulement entre guillemets pour la critiquer. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi?
Bah, disons, je pense qu'on ne se situe pas tout à fait sur les mêmes registres. Il y a eu des critiques. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas géographe. mais les géographes qui se sont penchés dessus, et même plus récemment certains sociologues, notamment du périurbain, en gros, on dit statistiquement, les indicateurs qui sont pris ne tiennent pas. Bon, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de chercheurs qui publient dans des revues à comité de lecture qui valident cette expression-là. Moi, par ailleurs, j'ai mon opinion aussi sur les livres que j'avais lus à l'époque, parce que quand j'ai commencé à travailler dessus en 2011, son livre le plus connu sort en 2012, je me suis dit, tiens, enfin, quelqu'un qui parle un peu de ça, quoi. Après, j'ai très rapidement vu à qui c'était destiné, comme le présentait Guy Lui au début, il disait, c'est un outil destiné aussi aux décideurs politiques locaux, c'est un discours qu'on constate, nous, en sociologie rurale, parce qu'il est régulièrement invité dans les conseils départementaux pour faire des conférences, etc. Et il vend, c'est une présentation d'une vision du monde qui permet aussi aux élus locaux de se mettre en position de dominer, alors même que ces personnes-là, les élus locaux, peuvent être élus de ce qui sont aussi des propriétaires terriens, des gérants d'industrie, des dominants locaux se retrouvent en position de dominer vis-à-vis d'une sorte d'élite parisienne, ouais. Je veux dire, qui est réelle, mais qui est là, fantasmée complètement, avec une opposition entre les bobos et les petits blancs. Et ça peut fonctionner, dire tout ce discours-là, du coup de renvoyer les gens aux petits blancs, c'est à la fois méprisant, mais ça peut aussi fonctionner de la même manière. Il y a un sociologue afro-américain qui s'appelle Du Bois qui parlait du salaire minimum des blancs, qui permettait en fait aux employeurs de les payer le même salaire que les noirs, donc des salaires de misère, mais de leur dire au moins vous êtes blancs, vous êtes comme nous, etc. Je pense qu'il y a cette vision voilà, un peu racialiste. Derrière aussi, qui marche et puis qui séduit. Là, le terme de petit blanc, il est beaucoup repris sur les réseaux sociaux, moi, par exemple, et qui est repris pour défendre ces populations-là. Donc, c'est un discours très connoté politiquement, d'emblée biaisé, et fourre-tout, tout le monde y met ce qu'il veut. Je pense que Guy Lui, lui-même, il est dépassé par l'usage qui en est fait. Après, je ne connais pas personnellement, je ne lui ai pas demandé, mais je pense que voilà, c'est vraiment réapproprié dans l'échiquier politique. Ça a commencé à Valls et Sarkozy, c'était le livre de chevet de Sarkozy, soi-disant, en 2012, et maintenant c'est beaucoup repris par l'extrême droite. Donc ça s'est déplacé, et chacun y met un petit peu ce qu'il veut, en accentuant plus ou moins sur les aspects qui lui plaisent. Et encore une fois, on le disait au début, c'est moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que moi, je suis plutôt partisan de faire des enquêtes de terrain, de faire des enquêtes empiriques, plutôt que de faire des essais. Où on projetterait en fait ce que seraient censées être ces populations-là. On peut faire des tableaux statistiques et cartographiques pour dégager les inégalités structurelles, macro-structurelles, et en cela, il y a des avantages à avoir une vision géographique comme celle de Guy Lui, voilà, qui montre bien les oppositions en France. Néanmoins, il y a un saut logique quand on commence à déduire les représentations et les visions du monde qui vont être dans la tête des gens en fonction de ce qu'on a observé statistiquement. Ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas allé voir, tant qu'on ne leur a pas demandé. Et là, moi, je pense que c'est surtout après toutes les théories qui se grèvent dessus, notamment celle de Laurent Bouvet de l'insécurité culturelle, que je trouve là où on franchit un pas un peu plus loin dans l'interprétation, où on dit, voilà, c'est les petits blancs seraient venus se réfugier loin des grandes banlieues, loin des populations immigrées, par peur d'obsolescence de leur monde, etc. Et c'est là qu'ils trouveraient refuge, mais ils restent en insécurité. Déjà, démographiquement, c'est pas ça qui s'est passé. Moi, j'enquête plutôt sur les campagnes en déclin, où les gens s'en vont, il n'y a personne qui arrive.
C'est ça, c'est pas des gens qui sont venus se réfugier là, ils y étaient déjà.
Bon, à la limite, ça passe. C'est un argument rhétorique de leur part, je pense pas qu'ils... Mais le côté voilà, du repli et de la fragilité, pour les raisons qu'on a détaillées auparavant, ça correspond pas du tout, en fait, à ces milieux populaires-là, qui sont dans des territoires objectivement ségrégés, mais d'autonomie. Et à mon avis, la grande question, ça va être celle de la réponse politique, mais même celle de la réponse, en gros, d'aménagement du territoire. Parce que si on compare, par exemple, avec les États-Unis, où on sait que Trump il s'est beaucoup appuyé sur ces populations-là pour se faire élire, c'est parce qu'il a pu déclarer dans un meeting politique, d'une certaine manière, je me sens un ouvrier, et il le faisait dans un territoire rural, désindustrialisé, où justement il pouvait comme ça user de l'identité blanche là-bas, qui est très revendicative, mais même celle du redneck, une certaine fierté d'être pris pour un plouc, etc., qui a été complètement en fait construite comme ça par rapport à un discours qui sert à opposer ces populations-là au reste du monde et à les instrumentaliser politiquement. Et à mon avis, tout ça, c'est dû quand même, in fine, à des lacunes de connaissances, ou au fait qu'on ne veut pas voir qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas. Alors ça serait peut-être moins authentique et exotique que ce qu'on veut nous, que ce qu'on veut nous dire, mais de la même manière que dans tout au long du XXe siècle, les recherches, notamment en sciences sociales, elles ont été minées par une vision exotisante, où on n'y voyait que des paysans du temps jadis, alors que déjà la majorité de la population était ouvrière, était prise dans des questions de mondialisation qui les rattachaient largement au destin des villes. Ces campagnes-là, elles se développent avec les villes, c'est les villes soit qui les aspirent ou qui les font se redévelopper, c'est aussi l'histoire industrielle européenne et mondiale qui détermine si ArcelorMittal va rester ou pas. Donc en fait, elles sont sans arrêt liées à des mouvements beaucoup plus généraux et globaux, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît Coquart, d'avoir partagé
merci à vous.
Toutes ces informations avec vous. Je recommande à nouveau vivement votre ouvrage, Ce qui reste, et on continuera de suivre avec grand plaisir vos travaux. Merci.
Merci. Thank you.